tous et bienvenue sur Radio J, les 9h. Nous sommes ensemble en ce lundi 2 septembre jusqu'à 10h. Et tout de suite, je vous donne le sommaire de la matinée.
Radio J, le 9-10, Léa Moscona.
Dans une dizaine de minutes, la signature du lundi, c'est Dr Bruno Aliwa. Il nous parle du prénom avec une étonnante découverte des scientifiques israéliens. Et puis, juste derrière, après quelques annonces, nous retrouvons Dr Vladimir Mitz pour sa chronique. Ça pourrait vous plaire, une présentation de la chronique. Juste après 9h35, autre rendez-vous du lundi avec des conseils de nos expertes. Teva, Céline Toiti, trop de glace, trop d'alcool cet été. Comment réduire les excès? Et puis enfin, Belle et Zen, trop de sucre, vous voyez, tout y passe. Et notre Sophie Macheteau, notre formatrice en beauté au naturel, beauté et formation en beauté, si vous voulez, une beauté que l'on, que vous, une beauté que vous pouvez obtenir grâce à des produits naturels. Et c'est avec Sophie Macheteau, voilà, les mots ne viennent plus.
Léa Moscona.
Radio J.
Mais tout de suite, il est 9h et on fait le point sur l'actualité. On revient sérieux avec Eva Soto. Eva, bonjour.
Bonjour Léa, bonjour à toutes.
Et tout de suite, c'est le journal à la une de l'actualité. Le 332e jour de guerre, Israël est à l'arrêt. L'arme de la protestation pour un accord sur les otages, c'est la grève générale.
L'aéroport Ben Gurion n'est pas fermé, mais des perturbations sont à prévoir. Dans les transports, idem sur les lignes de bus et de tram, les jardins d'enfants seront fermés. Et les écoles vont fonctionner partiellement ce matin seulement. Les hôpitaux fonctionnent, eux, selon le régime du Shabbat. Mais certaines municipalités ont choisi de ne pas participer à cette grève à l'appel de la Histadrout, le principal syndicat en Israël. C'est le cas notamment pour Jérusalem et Netanya, mais aussi pour Tel Aviv, où pourtant 300 000 manifestants ont battu le pavé hier soir. Correspondance de Daniel Haïk.
Les barrages de la police ont bloqué le périphérique Ayalon. Parmi les membres des familles d'otages qui sont intervenus, Avi Shimriz, père d'Alon, s'est adressé au Premier ministre. La pression militaire ne nous ramènera pas tous les otages seuls, un accord le fera. Les familles de ces otages ont également annoncé leur décision de poursuivre le mouvement de protestation jusqu'à la libération de leur...
Notre correspondant à Jérusalem, Daniel Haïk.
De nouveaux otages doivent être enterrés aujourd'hui. Les 6 retrouvés morts dans les tunnels de Gaza ont été assassinés 72 heures à bout portant avant leur découverte par Tsahal.
Et c'est l'annonce de trop, c'est ce sentiment qui domine au sein des protestataires. Les morts auraient pu être évitées alors que Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, s'est adressé aux Israéliens hier pour leur dire que c'est le Hamas qui bloque et que les efforts pour un accord continuent.
Ces jours-ci, alors qu'Israël mène des négociations intensives avec les médiateurs dans un effort suprême pour parvenir à un accord, le Hamas continue de refuser fermement toute proposition. Pire encore, à ce moment précis, il a assassiné 6 de nos otages. Celui qui assassine les otages ne veut pas d'accord. Nous, de notre côté, n'avons pas lâché prise. Le gouvernement israélien est déterminé et je m'engage personnellement à continuer de lutter pour un accord qui finira par libérer tous nos otages et garantira notre sécurité et notre existence.
Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, l'adjoint de Sinwar, le numéro 2 du Hamas, réclame aussi ce matin l'évacuation du couloir de Netzarim en plus de l'axe de Philadelphie. Sinon, il n'y aura pas d'accord, dit-il. Le couloir frontalier avec l'Égypte, celui de Philadelphie, qui selon les responsables sécuritaires peut pourtant être évacué, ce que refuse Benjamin Netanyahou.
Et aux États-Unis, des responsables américains ont déclaré au Washington Post que des discussions sont en cours avec l'Égypte et le Qatar.
Le but, établir les grandes lignes d'un accord sur les otages et le cessez-le-feu, accord qualifié par Washington de « à prendre ou à laisser ». Selon un haut responsable de l'administration Biden, les Américains prévoient d'en présenter les grandes lignes à Israël et au Hamas dans les semaines à venir. Un échec pourrait conduire à la fin des négociations pour un accord mené par les États-Unis. De son côté, l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, Danny Danone, a lancé un appel au Conseil de sécurité. Il réclame une discussion d'urgence sur la situation des otages pour que le Conseil condamne enfin le Hamas et exprime sa préoccupation quant au sort des captifs.
Et aux États-Unis, des responsables, ils auraient pu et auraient dû être sauvés. Message de milliers de personnes qui se sont rassemblées à New York pour rendre hommage aux 6 otages assassinés par le Hamas.
Lors de cette manifestation organisée par le siège des familles des otages à New York, Orna Neutra, la mère de l'otage israélo-américain Omar Neutra, a déclaré: nos cœurs se brisent pour la famille de Hersh Goldberg, Pauline. Un lien s'était forgé entre nous. Même dans les moments les plus difficiles, sa mère Rachel nous a donné de l'espoir. Tout cela doit cesser. Une manifestation a aussi eu lieu hier soir à Paris en solidarité avec Israël et pour appeler à la libération des otages.
En Allemagne, l'extrême droite allemande s'est largement imposée hier lors des élections à Thuringe, dans l'est du pays.
L'AfD talonne les conservateurs en Saxe. Il s'agit de résultats observés selon des sondages à la sortie des urnes qui se révèlent sans précédent pour cette formation politique. En revanche, ce scrutin est synonyme de coup dur pour la fragile coalition d'Olaf Scholz.
Bernard Cazeneuve, Premier ministre, doit être reçu ce matin par le président Emmanuel Macron.
Et oui, Bernard Cazeneuve, actuellement d'ailleurs, normalement avec Emmanuel Macron, figure de l'ère François Hollande. Les écologistes et LFI rejettent par avance sa nomination à Matignon. Il offre aussi l'avantage d'avoir été aux fonctions en tant que ministre et de ne plus faire partie aujourd'hui d'aucune formation politique. Le nom de Xavier Bertrand circule également.
Et puis bien sûr aussi, ce matin, 12 millions d'élèves ont fait leur rentrée à travers la France.
Pour la plupart des écoliers, cette année scolaire 2024-2025 se terminera le samedi 5 juillet pour laisser place aux prochaines grandes vacances. Avant, les collégiens devront passer leur brevet les jeudis 26 et 27 juin 2025. Pour les lycéens, les épreuves anticipées de français auront lieu le vendredi 13 juin. Le baccalauréat et technologique débutera quant à lui le lundi 16 juin.
Et comme tous les matins, nous retournons à Jérusalem retrouver notre correspondante Pascal Zonshine avec vous, Eva.
Oui, et Pascal évoque ce matin les conséquences de la mort de ces 6 otages assassinés retrouvés par Tsahal dans la bande de Gaza. L'annonce de trop qui a de lourdes conséquences.
Oui, jeudi dernier, le ministre israélien de la Défense affirmait que la guerre était parvenue à un carrefour stratégique. Yoav Galan considérait l'ensemble de la carte et estimait qu'il fallait redéfinir les objectifs de la guerre, d'abord en y ajoutant la nécessité de ramener la sécurité sur le front nord pour que la population évacuée depuis le mois d'octobre puisse rentrer chez elle et reprendre une vie normale. Et pour le ministre de la Défense, ce carrefour stratégique, c'est aussi ce qui se passe sur le front de Gaza. Le lien entre les résultats de la campagne militaire et le sort des otages. Yoav Galant est d'avis que le moment est venu de conclure l'accord de trêve. À Rafah, l'organisation militaire du Hamas a été décimée et 80% des tunnels creusés sous la route Philadelphie ont été détruits, ce qui veut dire que les résultats obtenus par Tsahal donnent une marge de manœuvre diplomatique. On peut accepter de sortir de la route qui sépare le sud de la bande de Gaza du nord de l'Égypte, car le Hamas n'est plus en mesure de la contrôler, et que l'on pourra la reprendre sans difficulté en cas de besoin, en particulier si le Hamas viole l'accord de trêve, ce qui paraît hautement probable. Pour Galant, ce retrait tactique aurait 2 avantages: permettre la libération rapide de 30 otages dans la première phase de la trêve et commencer à lever le verrou de Gaza qui bloque Israël sur tous les autres fronts. Un règlement, même partiel et temporaire, sur Gaza permettrait de se recentrer sur les 2 autres priorités, le nord, où 62 000 personnes attendent donc de rentrer chez elles et où plus de 100 000 autres sont sous la menace quotidienne des bombardements du Hezbollah. Et il y a maintenant le front de Judée-Samarie qui se réchauffe dangereusement. Hier, 3 policiers tués près de Hébron. Vendredi soir, 2 voitures piégées qui explosent dans le Gush Etzion. Il y a actuellement 2 fois plus de soldats déployés en Judée-Samarie que dans la bande de Gaza. Mais ce sont des troupes qui devaient en réalité monter sur le front nord face au Hezbollah. Tsahal a dû lancer sa plus vaste opération antiterroriste depuis la deuxième intifada il y a 20 ans et se concentre actuellement dans le nord de la Samarie, alors que les attaques de ces 3 derniers jours se sont déroulées plus au sud, en Judée. Et tout cela sans parler de l'Iran, qui reste la menace stratégique principale. Quand le ministre de la Défense se heurte à ses collègues du cabinet de sécurité, il a en tête ses enjeux stratégiques et l'obligation morale de ramener les otages. C'est ce qu'il expliquait jeudi soir en réunion du cabinet de sécurité, probablement au moment où les 6 otages étaient assassinés à Rafah. Hier, le Premier ministre expliquait qu'on ne pouvait pas récompenser le Hamas pour ses crimes. Benjamin Netanyahou a raison, mais Yoav Gallant aussi. Et les Israéliens désemparés regardent leurs dirigeants se déchirer. Aujourd'hui, ils leur rappellent qu'ils attendent d'abord le retour des otages.
C'était notre correspondante à Jérusalem, Pascal Sunshine. Pascal, qu'on retrouvera cet après-midi dans le grand journal, le 14-15 de l'info, que j'aurai le plaisir de vous présenter. Et puis nous, Léa, on se retrouve à 9h30 pour le rappel des titres.
À 9h30 pour le rappel des titres, puis à 10h pour le journal complet.
Vous écoutez
Radio J.
Radio J. Radio J.
Allez, quelques mots du temps. Avec à Paris 19 degrés en ce moment, cet après-midi, ça va bien se réchauffer. Nous aurons 26 degrés avec quelques nuages néanmoins. Le temps sera identique pour la journée de demain, mais les températures vont légèrement baisser à partir de mercredi. On voit ce qui se passe en Israël avec 28 degrés en ce moment à Tel Aviv. Nous aurons cet après-midi 32 degrés. Les températures devraient rester identiques tout au long de la semaine. Et puis à Jérusalem, c'est un petit peu moins chaud, 24 degrés en ce moment et 30 degrés pour cet après-midi sur la capitale.
Le 9-10, Léa Moscona.
Allez, la signature du lundi et c'est avec le docteur Bruno Aliwa. Bonjour docteur.
Bonjour Léa.
Alors aujourd'hui, vous parlez de prénom. Comment votre prénom peut modifier votre visage? Étonnante question. L'étonnante découverte également des scientifiques israéliens. L'habit ne fait peut-être pas le moine, mais le prénom, en revanche, a tout à voir avec notre apparence. Et c'est la conclusion à laquelle sont arrivés des chercheurs de l'université de Reichmann en Israël qui ont démontré l'existence d'un lien entre les traits du visage et les clichés associés à notre prénom. Alors docteur, comment les chercheurs ont-ils démontré ce lien entre notre prénom et l'apparence physique ?
Alors, cet été, au début du mois d'août, dans une revue prestigieuse, Proceedings of National Academy of Science, une équipe israélienne de l'université de Reichmann, d'Herzliya, a publié en fait une publication qui peut paraître un peu saugrenue, mais qui établit et qui surprend, puisqu'elle dit que finalement, tous les David, tous les Jonathan, tous les Esther, tous les Martins se ressemblent. Oui. Alors, c'est ça, ce qui est assez intéressant, c'est que cette équipe a fait une étude qui a permis de montrer que finalement, au bout d'un certain temps, on finit par ressembler à son prénom. Alors, c'est pas une hypothèse, hein. Ils ont fait une étude très très poussée, ils ont fait d'abord une expérience, ils ont des adultes et des enfants âgés de 9 à 10 ans, devaient associer en fait des prénoms à des visages sur une liste préétablie. Mmh. Et là, en fait, on s'est aperçu que dans 50% des cas, ils arrivaient à établir pour chaque visage un prénom et finalement, il y aurait des prénoms qui, vous auriez des, ils ont établi que finalement, il y a des visages qui correspondent un peu aux prénoms. Alors, pour approfondir cette découverte, ils ont analysé une grande base de données, alors avec des milliers de photographies, hein, avec des algorithmes d'intelligence artificielle. Et en fait, ils ont bien montré, et ça c'est l'intelligence artificielle, hein, c'est non pas sur des critères un petit peu subjectifs, que finalement, les personnes qui avaient le même prénom avaient tendance à se ressembler plus entre elles qu'à d'autres personnes ayant des prénoms différents. Alors, c'est pas uniquement des critères culturels ou ethniques, mais c'est plus une corrélation profonde entre le prénom et l'apparence. Alors vous allez me dire, oui, c'est facile, si vous prenez des Menachem Mendel, ils se ressemblent tous, ou des Chaya Moussa. Oui, c'est vrai, mais non, là c'est mieux, c'est plus précis. C'est-à-dire qu'ils ont montré quelque chose, c'est que finalement, alors que quand une personne est un enfant, il n'a pas tendance à ressembler à un autre enfant qui a le même prénom, au fil du temps, l'apparence il y a une sorte de transformation du visage qui fait que finalement, bah, c'est étonnant. Mais moi, je trouvais que c'est pour ça que j'ai choisi d'en parler ce matin. C'est qu'il y a un lien réel entre le prénom et l'apparence physique.
Oui, c'est comme s'il y avait une prédestination quand on avait tel ou tel autre prénom. Hein, de cette étude va sortir cet élément-là. Alors, quelles sont les implications de cette découverte finalement sur notre compréhension de l'identité et surtout sur les constructions sociales?
Alors, c'est très intéressant finalement, parce qu'il y a d'abord l'impact des constructions sociales, c'est-à-dire que c'est pas seulement que le prénom est façonné par des facteurs internes. On pourrait penser que finalement, si vous avez une famille où tous les premiers-nés s'appellent Maurice, tout le monde a la tête de s'appeler Maurice. Non, ça c'est autre chose. Là c'est finalement une sorte de transformation. Et ça, c'est quand même assez intéressant. C'est-à-dire que les prénoms en tant qu'étiquette sociale, elles jouent un rôle actif dans la manière dont on se perçoit ou dans laquelle nous sommes perçus par les autres. Et une personne qui a un prénom perçu comme élégant, et ben il aura des probablement, alors c'est ce que disent, des expressions faciales, des styles vestimentaires, des postures qui renforcent en fait ce prénom, mais même d'une façon inconsciente. Alors si les prénoms peuvent modeler l'apparence physique, alors c'est assez intéressant, c'est-à-dire que finalement les parents, le jour où un enfant naît, ben ils devraient savoir que donner un prénom, ça influence l'apparence future de leur enfant, mais aussi son développement personnel, ses opportunités professionnelles, et puis sa confiance en soi. Enfin, moi, je trouve que c'est assez intéressant, et je crois que c'est quand même une étude qui remet en question la question de l'identité.
Alors, comment cette découverte pourrait-elle influencer finalement la perception des prénoms et leur choix à l'avenir?
Ben, en fait, je pense que on l'oublie très souvent, finalement, donner un prénom à un enfant, c'est lourd de conséquences, et il devrait y avoir une nouvelle un peu compréhension qui pourrait amener les parents à considérer plus sérieusement les implications à long terme du prénom. C'est vrai que des fois, quand on est médecin, on voit beaucoup de monde, alors des fois on voit des prénoms et Prune, Clafoutis, des prénoms qui peuvent paraître mignons, mais est-ce qu'on se rend compte des conséquences que ça peut avoir par la suite? Alors je crois que, mais là ce qui est très important, c'est au-delà des moqueries, au-delà du regard qu'on a sur un enfant par rapport à son prénom, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que ça peut influencer l'apparence physique. Vous voyez, des prénoms comme Harry et Lyon ou David, des prénoms... les David auront probablement une apparence physique différente, et ça, je trouve que c'est assez intéressant. Alors, moi, je crois que c'est quand même une étude un petit peu préliminaire. Il y aura probablement d'autres études. Mais en tout cas, moi, ça m'interpelle, cette étude, parce que finalement... quand on demande à quelqu'un après une Brit Mila ou quand on attend avec impatience le prénom de l'enfant, ben en fait finalement on se rend pas compte des conséquences à très long terme. Voilà. Alors je vais pas vous dire qu'il faut donner
tel ou tel prénom
pour que l'enfant soit tranquille, mais en tout cas je trouve que c'est intéressant parce que et c'est pas anodin que ça soit une équipe israélienne qui ait fait ce travail. D'autant qu'en Israël on est confronté à une multitude de prénoms, étant donné l'importance de la diaspora, c'est-à-dire que il y avait initialement beaucoup de prénoms hébreux, après il y a eu des prénoms en hébreu moderne, mais c'est vrai qu'on a maintenant des fois qu'il y a des gens qui reviennent à des prénoms d'origine russe, on voit, ou des prénoms d'origine française, etc. Voilà. Donc je crois que c'est quand même assez intéressant.
Et puis dit-on également dans le judaïsme, quand on veut changer de destin, faut changer de prénom. Donc la preuve que le prénom peut avoir une influence, mais ça c'est vrai que c'est un autre sujet. Par contre, il est très courant, docteur, et vous ne me contredirez pas, que les papas, les mamans le font très naturellement avant même cette étude. On se dit, comment vais-je appeler mon enfant pour qu'il ait un destin heureux, etc. Et on se pose cette question, on se dit, avec ce prénom, ça lui portera chance très souvent et très naturellement, n'est-ce pas?
Tout à fait. Et c'est ça la force du judaïsme. C'est-à-dire que, et c'est probablement pour ça que je fais ces rubriques, parce qu'en fait, en général, à partir de notre mode de vie juif, on s'aperçoit qu'il y a des conséquences formidables sur le futur, sur notre façon de voir l'avenir. Et il y a des projections de l'avenir à travers chacun de nos gestes. Mmh. Et je trouve que c'est très important. Et vraiment, vous avez raison. Un prénom, changer de prénom, c'est donner un autre prénom quand quelqu'un est malade. Enfin, il y a plein de choses. Mais je crois que les sages, finalement, il y a 2500 ans, ben, des gens sont penchés, les sages du Talmud, ont réfléchi à cette notion de prénom qui n'est pas anodine, et je crois que c'est ce qu'on doit retenir de cette rubrique.
Eh bien, merci. Merci pour cette chronique, docteur Bruno Aliwa. Nous vous retrouverons lundi prochain pour une nouvelle signature.
Radio J. 14h-15h. Le Grand Journal. Eva Soto.
Je vous attends tous les après-midi à 14h dans le Grand Journal. Une heure de décryptage en direct de l'actualité en Israël, en France et dans le monde. Le Grand Journal, 14h-15h. À tout à l'heure.
Shalom. 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 Vous voulez apprendre l'hébreu ?
Rejoignez l'Ulpan de l'Écuge, Zéhamakom. Avec ses 12 niveaux en classe, en ligne ou en hybride.
Zéhamakom.
Écuge, 119 rue Lafayette, Paris 10e.
01 53 20 52 57.
Écuge.fr.
Écuge.fr.
Porte ouverte le 8 septembre à partir de 14h.
Les cours démarrent le 9 septembre.
Zéhamakom.
Écuge.fr.
Écuge.fr.
Radio J.
Radio J. Le 9-10. Le 9-10. Léa Moscona.
Et tout de suite, eh bien, c'est la présentation du nouveau rendez-vous, de cette nouvelle chronique que nous allons retrouver tous les lundis à 9h20. Ça pourrait vous plaire, en compagnie de docteur Vladimir Mitz, qui est chirurgien esthétique et plasticien. Bonjour à vous, cher docteur.
Bonjour Léa, c'est un plaisir que de vous retrouver pour cette émission.
C'est un plaisir partagé. C'est une émission un petit peu originale que vous allez nous proposer. Dites-nous quel est l'objet, quel est le lien entre la beauté, le bien-être, la santé et votre émission.
Eh bien écoutez, la beauté préoccupe tout le monde avec par exemple la mort d'Alain Delon. Soudain, une icône de grande beauté s'en est allée, pratiquement irremplaçable, et cela a fait du mal au cœur de beaucoup de Français. En dehors de d'autres histoires, c'est quand même un homme d'une beauté extraordinaire qui a disparu et qui incarnait un visage, une présence, et c'est un petit peu de cela que s'occupe aussi la chirurgie esthétique, c'est de donner un plus à une apparence pour des gens qui sont victimes d'une injustice, parce qu'ils sont où ils se trouvent laid, où ils ont un complexe. Et à côté de cela, il y a aussi la partie artistique de notre métier.
La partie artistique, évidemment, vous avez l'œil, hein, parce que vous formez votre œil à ce que l'on appelle la beauté. Vous allez nous donner dans un instant votre définition de la beauté, mais cet art pictural qui vous, vous personnellement, parce que vous êtes également un artiste par ailleurs, mais qui retient votre attention. Et vous avez décidé dans cette émission de construire plusieurs rubriques pour parler justement de cette beauté.
Voilà, j'ai pensé que pour nos auditeurs et auditrices, ce qui allait les intéresser, c'est des problèmes très pratiques à résoudre, comme ceux de l'apparence et de la beauté. Donc, c'est mon métier, je sais que vous vous y intéressez depuis très longtemps. Le marché d'ailleurs de la beauté est absolument faramineux.
Il ne connaît pas la crise.
Plusieurs milliards, ouais, c'est plusieurs milliards de dollars et une augmentation entre 5 et 10% par an, parce que même les populations qui en sont loin psychologiquement, eh bien, petit à petit, il se rapproche de cet idéal du soin du corps. Et puis, à côté de ça, c'est vrai que je voudrais défendre l'art, et notamment l'art de certains artistes juifs, parce que avec ces moments terribles que nous traversons d'antisémitisme, je pense qu'il faut relever la tête, mais aussi mettre en avant quelques-unes de nos icônes, et quoi de mieux que de parler des grands artistes juifs qui sont ou vivants ou qui sont déjà partis, mais qui ont représenté notre essence culturelle. Et puis aussi, je me suis dit que c'était impossible de ne parler que des artistes peintres ou artistes juifs, sculpteurs. Il fallait aussi parler des autres, des plus anciens. Et c'est pour ça que dans ma rubrique, il y aura une partie de mise en avant des expositions très nouvelles, récentes, ou de parler d'anciens artistes comme Léonard de Vinci, ou même dans la prochaine émission, c'est la première que nous allons faire, je vais parler de l'art rupestre, de l'art préhistorique, parce que c'est absolument fascinant.
Oui, la notion de beauté a évolué dans le temps, et c'est intéressant de voir comment. Oui.
voilà. Et puis donc une dernière partie qui concerne plus les problèmes de société elle-même, parce que le chirurgien plasticien, réparateur et esthétique est au confluent à la fois de l'apparence, mais aussi des grands bouleversements du corps social. Et donc dans cette première émission, je vais parler d'un problème un peu tabou, un peu difficile, qui est actuellement la possibilité de changer de sexe, cette incroyable évolution notamment de certains jeunes qui se disent ambigus, et il faudrait l'analyser et puis aussi expliquer comment, aussi bien au niveau juridique que technique, un certain nombre de procédures sont possibles, et est-ce qu'elles sont vraiment humainement, moralement accessibles, valables? C'est de cela dont je voudrais discuter. Ouais. Donc, vraiment une émission assez, non pas disparate, mais très centrée sur l'humain. Et aussi sur le judaïsme.
Et des questions centrales qui bouleversent aussi notre société, donc des questions très actuelles. Alors, pour refermer cette présentation, Vladimir, il nous reste un peu plus d'une minute. Je sais que c'est peut-être un challenge assez difficile, mais le chirurgien, plasticien, artiste que vous êtes, arrive à définir la beauté ou encore a du mal à la, si vous voulez, à l'appréhender?
Eh bien, c'est une bonne question, mais je n'arriverai jamais à la définir. Mon maître Villain disait que les canons de la beauté dépendent de l'artilleur. C'est-à-dire que vraiment, c'est celui qui regarde et qui a sa propre vision. Oui. Et il est hors de question de créer une norme. Adieu les normes, vive la singularité. C'est le titre d'ailleurs de mon prochain livre. Mm-hmm. Et c'est un petit peu dans cet état d'esprit de respect de l'autre que je m'incline devant vous et vous souhaite une très bonne chance et un plaisir de vous retrouver.
C'est un grand plaisir également pour moi et pour nous tous de vous retrouver donc tous les lundis. Ce sera donc le lundi à 9h20. Pendant une dizaine de minutes, on vous retrouvera pour cette nouvelle émission, nouvelle rubrique. Ça pourrait vous plaire. Merci à vous, cher docteur Vladimir Mitz. Et puis bonne journée et à la semaine prochaine.
Bonne journée à vous tous.
Radio J.
Radio J. Le 9-10.
Le 9-10.
Léa Moscona.
Excellente matinée. Et on continue avec une info médicale que nous avons appris cet été. C'est une pépite israélienne qui révolutionne le traitement cardiaque. Et Johnson & Johnson, le laboratoire Johnson & Johnson, ont déboursé 1,7 milliard de dollars pour la racheter. Alors au cœur de cette acquisition spectaculaire, hein, se trouve un minuscule implant. C'est un implant cardiaque qui est le fruit de plus de 2 décennies de recherche. Et c'est une start-up israélienne qui vient de marquer l'histoire de la MedTech, c'est-à-dire la haute technologie associée au médical, avec une transaction qui pourrait atteindre, comme je vous le disais, un petit peu moins de 2 milliards de dollars. L'entreprise s'appelle V-Wave, qui est une entreprise pionnière dans le développement d'un dispositif révolutionnaire pour le traitement de l'insuffisance cardiaque. Et c'est cette entreprise qui a donc été rachetée par ce géant pharmaceutique Johnson & Johnson. Alors, au cœur de cette acquisition se trouve un minuscule implant, hein, comme je vous le disais. C'est un implant qu'il a fallu peut-être près de 20 ans pour le concevoir, conçu par le professeur Gadi Keren, ancien directeur du département de cardiologie de l'hôpital Ichilov de Tel Aviv. Et c'est un dispositif qui offre un nouvel espoir. Il fallait le dire ce matin, c'est une info importante, un nouvel espoir pour les millions de patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque dans le monde. Alors, le professeur Keren raconte que cette technologie permet de traiter les patients atteints de cette insuffisance, tels que l'essoufflement, et ça réduit, si vous voulez, la pression dans l'oreillette gauche du cœur. Ça améliore les symptômes également cliniques, comme on le disait, de l'essoufflement de ces patients. Et il souligne également l'impact de cette innovation sur la qualité de vie des malades. Alors l'implant s'appelle pour le moment
l'implant de V-Wave. Il est inséré par cathéter entre les oreillettes du cœur et représente une avancée majeure dans ce domaine, vous l'aurez compris. Alors, ce développement a nécessité plus de 10 ans, hein, presque que 20 ans de recherche très rigoureuse, et ça a inclus des essais aussi sur les animaux qui ont été concluants en 2013. Vous voyez le temps que cela met pour concevoir véritablement un implant et une implantation humaine qui a été bien sûr par la suite réalisée en Israël. Et ce qui rend cette réussite particulièrement remarquable est le parcours réglementaire exigeant que V-Wave a dû suivre. L'entreprise a emprunté la voie d'approbation auprès de la FDA américaine et qui est connue elle-même pour être la plus complexe et la plus stricte pour les dispositifs médicaux. Et voilà, c'est ce que l'on pouvait annoncer ce matin pour cette information médicale que nous avons appris cet été.
Vous écoutez Radio J.
Radio J.
h 30, excellente matinale écoute de Radio J. Et tout de suite, c'est le rappel des titres présentés par Eva Souto. Eva, bonjour.
Bonjour, à la une de l'actualité, le 332e jour de guerre. Israël à l'arrêt, l'arme de la protestation pour réclamer au gouvernement israélien un accord sur les otages. C'est donc la grève générale à l'appel de la Histadrut, le plus important syndicat israélien. L'aéroport Ben Gurion n'est pas fermé, mais des perturbations sont à prévoir dans les transports et sur les lignes de bus et de tram. Les jardins d'enfants en Israël sont fermés aujourd'hui. Les écoles fonctionneront partiellement. Idem pour les hôpitaux qui fonctionneront selon le régime du Shabbat toute la journée. Certaines municipalités ont choisi de ne pas participer à cette grève générale. C'est le cas notamment pour Jérusalem et Netanya, mais aussi pour Tel Aviv où pourtant, hier soir, 300 000 manifestants ont battu le pavé. De nouveaux otages doivent être enterrés aujourd'hui. Les 6 retrouvés morts dans les tunnels ont été assassinés 72 heures à bout portant avant leur découverte par Tsahal. L'annonce de trop avec ce qui domine, c'est que les morts auraient pu être évitées. Binyamin Netanyahou, le Premier ministre, s'est adressé aux Israéliens hier pour leur dire que c'est le Hamas qui bloque et que les efforts pour un accord sur les otages continuent. Aux États-Unis, des responsables américains ont déclaré au Washington Post que les discussions sont en cours avec l'Égypte et le Qatar. Le but, établir les grandes lignes d'un accord sur les otages et un cessez-le-feu. Accord qualifié par Washington de « à prendre ou à laisser ». Un échec pourrait conduire à la fin des négociations menées par les États-Unis. Ils auraient pu et auraient dû être sauvés. Message de milliers de personnes qui se sont rassemblées à New York pour rendre hommage aux 6 otages assassinés par le Hamas lors de cette manifestation organisée par le siège des familles des otages à New York. Orna Neoutra, la mère de l'otage israélo-américain Omar Neoutra, a notamment rendu hommage à Hersch Goldberg, Pauline et à sa famille. En Allemagne, l'extrême droite s'est largement imposée hier lors des élections en Thuringe dans l'Est du pays. L'AFD talonne les conservateurs en Saxe. Ce scrutin est en revanche synonyme de coup dur pour la fragile coalition d'Olaf Scholz. Et puis bien sûr aussi ce matin, 12 millions d'élèves ont fait leur rentrée à travers la France. Pour la plupart des écoliers, cette année scolaire 2024-2025 se terminera le 5 juillet pour laisser place aux prochaines grandes vacances. Ce sera dans longtemps hein, quand même.
Il faut attendre. Hein. On a encore pas mal de mois. Mais entre-temps, il y a des petites vacances
et on
compte les jours quand on est un bon élève.
Voilà, exactement.
Merci Eva. On vous retrouve tout à l'heure à 10h pour le journal complet.
Radio J.
Le 9-10, Léa Moscona.
Allez, restez avec nous dans un instant. Deux émissions au naturel, Teva et Belézen.
Radio J.
Radio J. Le 6-9, Ilana Ferradian.
Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier.
Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin.
C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J.
Shalom. 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 Vous voulez apprendre l'hébreu?
Rejoignez l'Oulpan de l'Écuge. Zéhamakom. Avec ses 12 niveaux en classe, en ligne ou en hybride.
Zéhamakom.
Écuge, 119 rue Lafayette, Paris 10e.
01 53 20 52 57.
Écuge.fr.
Écuge.fr.
Porte ouverte le 8 septembre à partir de 14h.
Les cours démarrent le 9 septembre.
Zéhamakom.
Écuge.fr.
Écuge.fr. Radio J, le 9-10, Léa Moscona.
Et très bonne matinée à l'écoute de Radio J. Allez, ça y est, on entre dans notre demi-heure au naturel. Et une petite annonce à vous faire juste avant l'information. Des chercheurs israéliens découvrent les propriétés antibiotiques du poivrier. Et oui, c'est un groupe de scientifiques de l'université Ben Gurion du Negev qui a découvert des propriétés antibiotiques dans le poivre long utilisé en médecine traditionnelle pour traiter une grande variété de maladies. L'étude dirigée par le professeur Ariel Kouchmaro du département de génie biotechnologique de BGE de l'université de Ben-Gurion s'est donc concentrée sur cette plante qui est un proche parent du poivre noir et qui s'est révélée efficace dans la lutte contre des pathogènes résistants aux antibiotiques.
Léa Moscona.
Radio J.
Radio J.
Et c'est l'heure de Teva, notre magazine avec notre naturopathe Céline Touati. Bonjour, chère Céline.
Bonjour Léa.
Et c'est un grand jour aujourd'hui pour vous parce que c'est votre anniversaire.
Eh oui.
Très bon anniversaire, joyeux anniversaire à vous, chère
Merci
Céline.
Beaucoup. 50 ans.
Et on a le grand. Oh, bah écoutez, vous êtes une jeune fille. Pour beaucoup, oui, vous êtes une jeune fille. En tout cas, vous paraissez une jeune fille, et ça, c'est sans doute à cause des méthodes naturelles que vous utilisez. Et vous nous les conseillez chaque semaine dans Teva. Alors justement, Céline, ah là, vous allez nous taper sur les doigts parce que cet été, bah oui, il y a eu un petit peu trop de glace, hein, trop d'alcool, peut-être trop de sel également. Et vous nous dites ce matin, allez, ça y est, il faut revenir à une alimentation, un comportement plus sain.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que votre foie vous dira merci. Hein,
oui, exactement.
Et si le foie va bien, beaucoup de choses vont beaucoup mieux. On se sent moins fatigué, on a plus d'énergie, on n'a pas après des petits bobos du quotidien, je dirais, comme des maux de tête, des choses comme ça, qui viennent souvent du foie. Donc effectivement, voilà, trop d'apéro, trop de glace pendant l'été. La première chose à faire, ça va être évidemment d'améliorer son alimentation, hein, on n'a rien sans rien. Et ça, en enlevant ce qui nous a a priori rendu un peu malade ou un peu le foie fatigué. Oui. Donc de base, on va arrêter les glaces, on va arrêter l'alcool, mais tout ce qui va autour de l'apéro, il n'y a pas que l'alcool, hein, y a ce qu'on va manger autour aussi, oui, évidemment. Tout ce qui va être surchargé, en fait, en gros, en mauvaise graisse, en sel, en tout ça, voilà. Mmh. On essaye de repartir sur des bases plus saines, évidemment, au niveau alimentaire, ça c'est sûr.
Est-ce qu'il faut le faire, mais de manière progressive, ou bien vous conseillez plutôt, et c'est votre technique, de se dire, allez, un jour, précisément, ce jour-là, à partir duquel j'arrête totalement l'alcool et toutes ces bêtises?
Alors, moi j'aime bien faire ça. Parce que à partir du moment où vous avez vraiment un but, un objectif, je trouve que c'est plus facile de dire, par exemple, aujourd'hui, c'est la rentrée des classes pour beaucoup de petits écoliers français. C'est intéressant de dire, ben, par exemple, voilà, aujourd'hui, c'est une nouvelle rentrée, c'est un nouvel objectif. Si ça vous paraît vraiment compliqué, et là, j'insiste sur l'alcool, c'est qu'on peut aussi avoir un problème d'addiction. Et là, il faut s'interroger. Si on dit que vraiment c'est compliqué, qu'on n'arrive pas à arrêter. Mmh. Après, il y a des choses qui vont vous aider à arrêter ça. L'idée, c'est pas juste. Vous savez, moi, j'aime pas avoir toujours le côté négatif. Faut voir aussi pas que ce qu'on enlève, mais ce qu'on rajoute. Mmh. Donc, déjà, vous savez que je suis très à cheval là-dessus, mais déjà, on va s'hydrater. Donc, on va essayer de boire suffisamment de l'eau, évidemment, tout au long de la journée, pour essayer d'éliminer au maximum, aider le foie, éliminer les toxines, voilà, l'eau, c'est un petit peu.
L'eau, c'est vraiment la solution, mais une petite question sur l'eau, justement, Céline, parce que là aussi, on se pose des questions. Vous savez, il y a des eaux qui sont pauvres en sodium. Est-ce que elles sont intéressantes? D'autres eaux qui sont des eaux un peu gazeuses, pétillantes. Vous avez des eaux qui sont de qualité plus ou moins différentes. Quelle est la meilleure eau?
Alors, pour moi, la meilleure eau reste en France, l'eau du robinet. L'eau du robinet, elle est traitée, elle est comme il faut, elle n'est pas trop minéralisée, justement, etc.
Oui.
Toutes ces eaux qu'on minérale, qu'on vous vend, donc riches en quelque chose, ça va être intéressant, mais ça va être intéressant par cure. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez une eau riche en magnésium, c'est ce qu'on entend souvent dans certaines eaux, ben, vous pouvez dire, tiens, pendant un mois, je vais faire une cure de cette eau-là pour m'enrichir en magnésium. Mais ce ne sont pas des eaux qu'il faut utiliser à l'année, surtout pas celles qui sont enrichies en certains minéraux, parce qu'à force, ça peut fatiguer un petit peu les reins.
D'accord. Et celles qui sont pauvres en sodium, elles sont tout de même intéressantes, non?
C'est intéressant, mais après, honnêtement, ça ne va pas changer grand-chose. D'accord. Parce que quand on vous dit pauvre en sodium, vous prenez n'importe quelle eau de source, elle est naturellement riche en sodium. C'est uniquement quand vous comparez avec des eaux très minéralisées, comme les deux plus connues qu'on voit en général en France, sur nos tables, ces deux-là sont effectivement très, très minéralisées. Donc, quand on vous dit pauvre en sodium, c'est plutôt une allégation marketing, parce que la plupart des eaux sont naturellement pauvres en sodium.
Alors donc, en cure, si ce sont des eaux minérales, mais sinon le robinet, ça va très bien. Et c'est le conseil vraiment pour commencer à comment est-ce qu'on dit, désintoxiquer le foie.
Oui, alors moi j'aime bien défatiguer, vous voyez.
Défatiguer, c'est mieux.
Désengorger, défatiguer. Oui. Alors après, on peut aussi dans la journée rajouter des plantes en tisane. Justement, qui vont pouvoir aider. Alors, quand il fait encore un peu chaud, là, donc quand il fait encore un peu chaud et qu'on a pas forcément envie de boire chaud, c'est pas grave, on peut tout à fait préparer la tisane avec de l'eau chaude pour que les molécules des plantes soient extraites, mais par contre, la laisser refroidir et la boire froide. Une tisane se garde à peu près 24 à 48 heures, donc on peut tout à fait la boire le lendemain ou plus tard dans la journée. Et là, les plantes que je vais vous proposer, ça va être plutôt des plantes, il y a le chardon-marie qui existe, vous savez, c'est ces jolies fleurs piquent un peu avec une fleur rose au bout. Quand vous allez dans des régions, il y a des vaches, on voit que les vaches mangent ça, ça les aide justement à nettoyer leur estomac, à emporter un petit peu tout le gazon.
Prenons exemple sur les vaches.
Voilà, exactement. Donc ça va aider, ça va soutenir un petit peu le foie. Hein. Après, il y a des plantes un peu moins sympas en tisane, mais qui sont efficaces, c'est l'artichaut. Mais après, on peut aussi dire, je vais rajouter au contraire dans mon alimentation des aliments comme l'artichaut. Le radis noir aussi est excellent pour essayer d'éliminer un peu, enfin favoriser en gros la production de bile et donc favoriser le drainage du foie. Et après, ça va être tous les aliments qui ont un goût un peu amer. Alors, il faut aimer l'amertume. Justement, on parlait de mon anniversaire, ça vient souvent avec l'âge. L'amertume, c'est souvent un truc que les enfants n'aiment pas.
C'est vrai, c'est vrai. Et qu'on supporte quand on a pris de l'âge.
Exactement. Donc, je pense aux endives, je pense à l'artichaut dont je viens de citer. Le pissenlit aussi, les salades de pissenlit, ça peut être intéressant. Tout ce qui est un peu amer va être intéressant pour le foie, de toute façon.
Alors, ça vous le conseillez en tisane, et c'est vrai qu'aujourd'hui on a le choix dans les magasins naturels, là-dessus c'est facile à trouver. Par contre, est-ce que on peut l'imaginer dans le repas, manger de l'artichaut, voilà?
Tout à fait,
voilà, ça marche.
Exactement.
Aussi.
Oui, ça marche aussi, au contraire. Hein. Moi, j'aime bien que l'alimentation soit son premier médicament, comme disait a priori Hippocrate.
Oui.
donc c'est important, de dire que c'est d'abord par l'alimentation. Donc, on enlève ce qui ne va pas et on rajoute ce qui va être bien, donc les produits amers et l'artichaut, sans souci. Et puis, voilà, moi, j'aime bien le radis noir. C'est vrai que c'est assez particulier. Le radis noir, tout le monde n'aime pas. Mais le radis noir, quand on n'est pas forcément très, très fan, je conseille de le faire un petit peu comme des carottes, bien râpées, avec un petit peu de sel, un filet d'une bonne huile d'olive, et c'est quand même très très bon, quoi.
Voilà de très très bons conseils. Donc on arrête absolument les alimentations, comment est-ce qu'on appelle ça, la nourriture,
les apéros, les abus de l'été.
Voilà, tous les abus, on arrête d'un coup sec, et puis on boit beaucoup, et on boit des tisanes aussi, boit de l'eau et on boit des tisanes avec ces plantes, artichaut, radis noir, endive et pissenlit que vous nous avez conseillé. Merci
infiniment, Céline. Et Céline, on termine quand même par un joyeux anniversaire encore, parce que c'est toute la journée. Vous êtes la reine de la journée. Très bon anniversaire et très bonne semaine à vous. Céline Touati avec nous. Et on peut vous retrouver, bien évidemment, sur les réseaux sociaux. C'est Dièse Naturo Touati pour retrouver vos livres et vos conseils. Merci, Céline.
Léa Moscona.
Radio G. Et c'est l'heure de la beauté au naturel avec notre formatrice, experte et consultante beauté et bien-être au naturel. Bonjour Sophie Macheteau.
Bonjour Léa.
Ça va bien Sophie ?
Merveilleusement bien.
Bon, allez, aujourd'hui, vous allez nous dire quelque chose qu'on va avoir du mal à entendre. Vous allez nous dire, allez, on diminue la consommation de sucre. Cette année, ce sont les bonnes résolutions. En cette rentrée 2024, on va diminuer notre sucre au quotidien. Alors, pas pour nous frustrer, vous nous dites qu'il faut la diminuer, cette consommation, mais pour se sentir mieux. Hein, et ce sera notre sujet. Alors, pour commencer, Sophie, est-ce qu'on a des chiffres qui montrent que les Français consomment en général trop de sucre ?
Oui, malheureusement, en France, nous consommons en moyenne 100 grammes de sucre par jour. Ça représente, il y a 24 morceaux.
Ah oui, c'est bon.
Ouais, ah, et c'est l'OMS, bon. Accrochez-vous, donc c'est l'Organisation Mondiale de la Santé, recommande 25 grammes de sucre par jour, soit 6 morceaux de sucre qui devraient être répartis, bien sûr, sur la journée. Donc la consommation des Français, elle est par conséquent 4 fois supérieure à celle recommandée, ce qui évidemment n'est pas terrible. Pour vous donner 2 exemples, parce que souvent on n'a pas en fait l'impression de consommer autant de sucre dans une journée, eh bien, une canette de soda, par exemple, c'est 6 à 7 morceaux de sucre, oh là là. Donc ça va très très vite.
Ah oui.
Le pain au chocolat... De 80 grammes, on n'adore pas le petit, le normal.
Oui.
C'est 3 morceaux de
quand
sucre.
Quand même. Et ouais.
Et alors, ce qui est marrant, c'est souvent les becs salés, pensent, eux, ne pas consommer trop de sucre, mais en fait, ils en consomment trop aussi. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, il y a les sucres visibles, mais aussi tous les sucres invisibles qui sont caché dans l'alimentation industrielle.
Mais oui, parce que quand vous dites 6 morceaux de sucre, on se dit, ben non, moi je ne mets pas 6 morceaux de sucre dans mes cafés, mais n'empêche que le sucre est caché, il est dissimulé. Et oui, alors justement, comment est-ce qu'on trouve ces sucres cachés ?
Ah bah c'est très simple, hein. Ils sont dans les plats préparés, dans la charcuterie,
et voilà, bien sûr.
Le petit saucisson de l'apéro.
Bien sûr, dont on parlait. Ouais.
Voilà, j'ai entendu la chronique d'avant. Les cornichons, les vinaigrettes, les conserves de légumes.
J'adore.
Alors les pains de mie, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sucre dans le pain de mie. Les sauces, les biscuits apéritifs dont vous parliez aussi. Alors en fait, c'est très simple, hein. On peut résumer par, dans la grande majorité des aliments industriels, on trouve des sucres cachés.
Disons-le vraiment une bonne fois pour toutes, quels sont les effets délétères de la consommation excessive de sucre ?
Alors, au-delà des caries dentaires, évidemment, c'est une évidence, mais il faut savoir qu'il y a des effets beaucoup plus délétères qui sont tout ce qui est associé aux maladies cardiovasculaires, à l'obésité, au diabète et à l'hypercholestérolémie, et même au cancer, hein, puisqu'il y a plusieurs études qui ont montré un lien
direct.
Le sucre et le cancer.
Pouvez-vous nous rappeler aussi quel est le lien entre sucre et glucides ?
Les sucres, on le rappelle, font partie de la famille des glucides, donc ce sont des macronutriments, hein, tout comme les protéines et les lipides. Alors, ils sont nécessaires en quantité raisonnable à notre organisme, afin bien sûr que celui-ci puisse se construire et fonctionner de manière optimale, car c'est le carburant de notre, c'est l'énergie, le carburant de notre corps. Mais évidemment, il est préférable de privilégier, puisqu'il existe des glucides complexes, notamment les céréales, aux glucides simples. Donc il vaut mieux privilégier ces glucides complexes que les glucides simples, donc qui sont présentés par le glucose, fructose et galactose.
Mais pourquoi ?
Alors, en fait, ça s'explique parce que les glucides simples, ils vont augmenter très rapidement la glycémie, le fameux taux de sucre dans le sang, entraînant ainsi des pics d'énergie, mais qui vont être suivis de baisses très rapides d'énergie. Alors, pour vous donner un exemple, c'est le fameux burger frites qu'on va dévorer à 13h. Pourtant, c'est copieux, on a l'impression
qu'on se remplit, bien sûr.
Et qui va être suivi à 16h d'une très très grosse fringale. Et souvent on dit, pourquoi j'ai faim ? J'ai mangé un énorme burger avec des frites. Et bien voilà, on a cette explication, c'est une belle illustration. Et au-delà des effets délétères que j'ai cités précédemment, il faut savoir aussi qu'une consommation excessive de sucre, elle entraîne des inflammations diverses et variées. Et puis aussi une addiction au sucre. On sait aujourd'hui qu'elle est très importante. Et j'insiste sur le fait que l'inflammation, c'est l'un des fléaux vraiment de notre siècle.
Hein, oui.
Que pour rester en bonne santé, il est vraiment nécessaire de la combattre au quotidien.
Bien sûr.
Et la diminution de sucre, donc, est l'une des clés pour lutter contre cette inflammation.
C'est ça. Parce qu'on se sent mal, hein, clairement. Je veux dire, on peut avoir mal au ventre toute une journée, on dort mal, etc. Alors, justement, côté bien-être, on dit souvent que le sucre nous fait du bien. Et pourtant, aujourd'hui, hein, il y a plusieurs études qui nous montrent, au contraire, que le sucre est l'ennemi de la santé mentale. Alors, comment on explique ça? Parce que c'est vrai qu'en général, pour se rassurer, pour se faire du bien mentalement, j'entends, ben, on se prend du, vous savez, cette belle pâte chocolaté, je donne pas le nom, mais et on trempe la cuillère dedans et on va mieux. Et pourtant,
on se sent mieux de manière très éphémère.
Oui,
alors, il est vrai que le sucre, c'est un doudou, c'est une madeleine de Proust qui nous plonge en enfance et qui à court terme nous procure du bonheur, étant donné que sa consommation, eh bien, elle va activer le circuit de la récompense en sécrétant la molécule de la dopamine. C'est l'hormone du bonheur et elle va aussi réduire le cortisol qui est l'hormone du stress. Donc on a l'impression justement que c'est une récompense, que c'est un doudou, ce sucre. Mais oui, voilà, parce que quand il est en trop grande quantité et qu'il y a dans le sang, eh bien le corps va libérer une grande quantité d'insuline pour le réguler, ce qui va faire grandement chuter le niveau de glucose sanguin. Et cette chute de glucose sanguin, elle va entraîner fatigue, irritabilité et perturbation de l'humeur. Donc ça c'est, et du coup on va avoir l'effet inverse. On n'aura pas cet effet doudou bonheur. On va avoir vraiment, et maintenant on sait on sait vraiment par plusieurs
études
que ça agit sur l'humeur et sur notre santé mentale. Et on a même d'autres études qui montrent qu'un excès de sucre pourrait avoir des effets délétères sur les fonctions cognitives comme la mémoire.
Ah oui, alors là ça fait peur. Il y a par contre ces fameux édulcorants. Alors on a tout entendu sur les édulcorants. Est-ce qu'ils permettent de contourner le problème ou pas?
Ben, la réponse, malheureusement, est non. Alors après, il y a plein d'édulcorants, ils sont pas tous dans la même catégorie, mais en tout cas, les édulcorants, ils agissent comme un leurre pour le cerveau. Et malgré le zéro calorie des édulcorants, eh bien, un pic d'insuline est créé afin de réguler le taux de sucre dans le sang, bien que l'apport de sucre n'ait pas eu lieu. C'est là tout le paradoxe. Donc on a l'impression, donc en fait, l'insuline qui faisant baisser à tort la glycémie, eh bien, cela stimulerait le besoin de consommer encore plus de sucre, favorisant à terme l'obésité et donc le diabète. On a une étude récente de l'INSERM qui a montré que les boissons light, chère Léa, augmentent considérablement le risque de développer un diabète de type 2, bien plus que les boissons sucrées de manière classique.
Il faut arrêter tout ça, on va rester à l'eau, hein, comme nous l'a dit Céline il y a quelques minutes.
Il y a les eaux détox avec des fruits, enfin, des choses qui sont très sympas aujourd'hui.
Oui, bien sûr.
Pour ne pas être dans la...
En avait parlé, hein, des petites pastilles qu'on met dans des grandes bouteilles d'eau, c'est des pastilles qui sont fruitées, tout ça c'est au naturel.
Ou simplement des fruits, hein, vous mettez des melons, des fruits de saison, des légumes même, du fenouil dans de l'eau, c'est fenouil citron, c'est excellent.
Oui, ou concombre menthe, par exemple, ça peut être aussi. c'est un bon conseil. Alors, pour aider nos auditeurs qui souhaiteraient vraiment passer le pas et diminuer leur consommation de sucre, vous vouliez ce matin, Sophie, nous recommander un ouvrage. C'est un ouvrage génial qui vient de sortir. Alors, dites-nous-en un petit peu plus.
Oui, il s'agit de l'ouvrage, il s'appelle Sugar Detox Challenge. Tout un programme de Mélissa Malda aux éditions Amphora. La Mélissa, c'est une jeune mumpreneur de 30 ans qui jongle entre son travail de maman et ceux de contrôleur de la SNCF et de coach en nutrition.
Ah, génial.
Et cet ouvrage qui est vraiment passionnant regroupe 50 recettes faciles et gourmandes et un programme de 4 semaines pour se détacher du sucre. Je ne saurais que trop vous le recommander.
Oui, il faut absolument aller dans ce sens. Alors, je crois, Sophie, qu'il existe des alliés. Alors, 100% naturel, parce que c'est votre technique, 100% naturel pour se désaccoutumer du sucre, mais en douceur. Est-ce que vous auriez quelques exemples à nous donner?
Oui, tout d'abord, le chrome, on n'y pense pas assez souvent, mais le chrome, c'est un oligo-élément reconnu pour contribuer à maintenir la glycémie et le métabolisme des macronutriments. Donc, il va aider à mieux gérer et à réduire les fringales sucrées. Et ça, on adore, évidemment.
Bien sûr.
Et je vous recommande le chrome de la gamme oligo-végétale de Trois Chaînes Laboratoires, dont l'origine est végétale. Là, maintenant, évidemment, le chrome n'est pas végétal. Et là, son origine est végétale et provient de l'arbre à curry du persil. Du curry et du persil, donc on a une meilleure biodisponibilité du produit.
Ah ouais, ça c'est génial. Voilà, donc oligo-végétal, de Trois Chaînes Laboratoires, excellent laboratoire.
Voilà, le chrome.
Le chrome, bien sûr. Alors, un autre allié naturel à nous conseiller, Sophie?
Oui, c'est la plante Griffonia. Alors, on la surnomme la griffe du diable. Tout un programme. Et cette plante est remarquable et elle contribue à réduire les envies irrépressibles de sucre. Donc, elle va aussi avoir un impact sur l'humeur. Et on sait que l'humeur, quand on prend trop de sucre, on a un impact sur l'humeur, tout en contribuant au fonctionnement normal du système nerveux.
Griffon d'or, moi je l'appellerais. Donc Griffonia, pas mal.
Griffonia,
je
ne
connaissais pas cette plante.
Alias, la griffe du diable. Et moi je vous recommande les gélules de Griffonia de la marque Super Diète, qui sont dosées à 185 mg de 5-hydroxytryptophane. C'est la molécule active de cette plante qui est très efficace.
Ce qui est génial, c'est qu'il existe ces solutions, ces produits naturels totalement pour nous aider justement dans cette démarche de diminuer le sucre. Alors peut-être pour refermer cette émission, pour terminer, vous souhaitiez nous recommander certaines fleurs de Bac, dont on a déjà parlé, qui sont surdouées justement aussi pour nous aider à réduire ces pulsions, parce que le sucre, ça vient souvent comme ça. On a des pulsions, tout d'un coup, on se dit, oh, il me faut du sucre, on ouvre tous les placards, du sucre. Mais là, on va justement réguler tout ça.
Ben oui, parce que l'envie de sucre, elle est souvent conditionnée par nos émotions. Et les fleurs de Bac, on sait qu'elles vont agir comme de véritables infirmières de l'âme. Et donc, du coup, agir directement sur le centre des émotions. Et certains élixirs de fleurs de Bac, tels que l'aigre-moine, la centaurée, le noyer, le pommier sauvage ou encore le prunus, eh bien, ils peuvent nous aider à ne pas craquer lorsqu'on souhaite contrôler notre consommation de sucre. Donc, ça va être un petit garde-fou qu'on va prendre quelques gouttes dans l'eau plusieurs fois par jour. Et en fait, il existe des élixirs composés qui regroupent toutes ces plantes, toutes ces fleurs de Bac. Cet élixir composé s'appelle Dépendance. Donc, je vous recommande celui de la marque française Elixir & Co.
Ah, ben merci pour tous ces conseils, Sophie. On va vous suivre sur ce chemin pour diminuer notre consommation de sucre. On a bien vu dans cette émission que c'était essentiel et qu'il y a énormément de bienfaits à cela. Et on va retrouver l'émission, évidemment, sur notre site, bien sûr, radioj.fr, également sur le site suzannegreen.com. Suzanne avec un seul N. Merci infiniment, Sophie Machin, notre professionnelle de la beauté et du bien-être au naturel. Bonne semaine.
Radio J, le 9-10, Léa Moscona. Radio J.
Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J. Radio J, le 9-10, Léa Moscona.
Bien, merci d'être avec nous sur Radio J en cette fin de matinée, le 10-11. Comme tous les matins, vous le savez, c'est Elise Gutmann. Elle est à mes côtés et elle va vous présenter le programme de ce 10-11 à venir. Bonjour, chère Lise.
Oui, bonjour, comment Léa. Et j'avais envie de le dire, bonne rentrée.
Bonne rentrée, c'est vrai. Mais c'est aujourd'hui 12 millions d'écoliers. Enfin bon, c'est vrai que c'est
et
un grand jour.
Et de profs.
Et de profs, ils sont rentrés déjà
vendredi,
les pauvres.
Oui, voilà. Donc, bonne rentrée.
C'était dur de se réveiller ce matin.
Oui, je pense.
Pour les enfants.
Pour les enfants, c'est dur.
Pendant deux mois, on se réveille à midi.
Ils n'ont rien fait. Alors, bonne rentrée à toutes et à tous, les enfants, les parents, les grands, les grands-parents, bref, toute la mishpacha, on peut dire. Et voilà. Alors, ce matin, on va parler d'une autre rentrée, c'est celle des Journées européennes de la culture juive, avec le président qui n'est autre que Thierry Cor, et qui sera en ligne avec nous pour nous donner toutes les grandes lignes de cet événement, à la fois partout sur l'Hexagone, mais également dans toute l'Europe. Mmh. Et à Paris, bien sûr. Ensuite, à 10h20, je recevrai Jonathan Joffé du Keren Hayesod, qui nous parlera à la fois de l'actualité du Keren Hayesod, mais également de ce voyage merveilleux qu'ils ont organisé avec des enfants d'un kibbutz qui a été très touché le 7 octobre et à qui ils font faire un voyage merveilleux à Paris à la découverte de la Tour Eiffel et de beaucoup d'autres choses. Et c'est vraiment important. Et à 10h35, on parlera du spectacle Yiddish Shokel avec Yaël Marciano qui en est à l'origine et qui va nous faire écouter des choses et partager son enthousiasme avec nous. Voilà.
Il y a beaucoup de choses dans ce magazine en couleur du matin.
Oui, très varié pour cette rentrée.
Très bonne matinée, Lise. À demain 9h.
À demain 9h, Léa.
Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Restez informés. Écoutez Radio J. Radio J.
Radio J.
Le 10-11. Le 10-11. Lise Goodman.
Radio J.